L'évangile de Jean, chapitre 10, les versets 1 à 10. Jean, chapitre 10, versets 1 à 10, au nom de Jésus. Je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur, à un autre endroit, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom et les mène dehors. Quand il les a toutes faites sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu, au contraire, elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus dit encore, je vous le déclare, c'est la vérité, je suis la porte de l'enclos des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et il trouvera sa nourriture. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et l'aient en abondance. Amen. Qui ne reconnaît pas ce texte, la parabole du bon berger, bien sûr. Et j'oserais même dire, c'est la grande classique qui détient la place numéro 1 dans tous les évangiles, si nous faisons un classement des paraboles les plus connues par monsieur et madame tout le monde. Et personnellement, moi, j'ai une relation assez particulière avec ce texte. Car en 1997, quand j'ai été consacré berger dans le ministère où j'avais reçu, à Madagascar, ce texte a été prêché ce jour-là. Cette fois-ci, c'était jusqu'au verset 11, où il est dit « Je suis le bon berger ». Par conséquent, même si tous les textes bibliques sont importants, bien sûr, celui-ci, pour moi, a une résonance particulière, vu que ça me rappelle beaucoup de choses depuis ce temps-là. Ce texte a marqué mon histoire de vocation. D'ailleurs, je n'ai pas l'habitude de faire un témoignage au tout début de ma prédication, et surtout pas en lien avec ma personne, mais ici, je peux vous dire que ce texte, il a tout. Il est complet. On peut y trouver tous les ingrédients, les illustrations, des images, des métaphores, des exhortations, des réflexions, des mises en garde, tous les ingrédients qui donnent la saveur d'un texte biblique bien concentré dans ce texte que nous avons aujourd'hui. En une seule parabole, Jésus s'identifie à la fois à un berger, à l'enclos des brebis, mais aussi à la porte de cet enclos. Il est à la fois le berger, l'enclos et la porte. La plupart des temps, quand on écoute des prédications sur ce texte du bon berger, la majorité des prédicateurs, sans le faire exprès, mettent tous l'accent sur la notion du bon berger, tout de suite. Or, Jean ici met tout en ensemble et forme une sorte de bouquet. Le bon berger, l'enclos et la porte. De ce fait, si nous voulons faire un effort à prendre en considération les trois images utilisées par Jésus, comment allons-nous interpréter ce texte? Voici quelques éléments importants que j'ai relevés dans le texte qui pourraient nous aider à nous orienter dans la réflexion. Regardez le dernier verset, au verset 10, dans la deuxième partie qui dit « Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie La vie en abondance. Une vie en abondance. Je me suis dit, pourquoi Jésus utilise cette expression au lieu de dire la vie éternelle? Pourquoi il dit la vie en abondance au lieu d'utiliser l'expression la vie éternelle? Il faut se rappeler que Jean s'adresse aux Juifs ici, qui parlent beaucoup de choses sur la vie éternelle. La notion de vie en abondance est plus adéquate pour les Juifs que la notion de vie éternelle, puisque chez les Juifs, la vie éternelle n'existe pas dans leur croyance primaire. Cette notion de vie éternelle, elle est nouvelle. C'est dans la famille chrétienne que nous avons reçu cet héritage de vie éternelle. C'est plutôt une vie en abondance qui est synonyme de vie éternelle, bien sûr. Donc, cette dernière, on va dire, c'est un concept qui n'a pas été compris et même qui n'a pas du tout été cru par les disciples, puisque ce sont des Juifs. Donc, ils n'avaient pas cette notion de vie éternelle après la mort. Mais ce n'est qu'après que Jésus soit élevé vers le Père, c'est là que les disciples ont compris qu'il y a encore une autre vie après cette vie sur terre. Donc, reprenons la vie en abondance ici, plus la porte, plus l'enclos, plus le berger, tous ces éléments capitaux ajoutés à la grande ligne générale de l'évangile de Jean. Rappelons-nous quelle était cette grande ligne de l'évangile de Jean dans le prologue de Jean. Ce prologue de Jean qui résume l'histoire de la création, Jean chapitre 1, verset 1 et la suite. Jean raconte l'histoire de la création, mais dans ses propres termes à lui, en corrélation avec les éléments que nous venons de citer tout à l'heure, cela nous mène alors à l'hypothèse suivante. Faisons un petit rappel des récits de la création. Le rapport que l'homme avait avec le jardin d'Éden, puisqu'on parle de création. Dans notre conscience collective, dès que nous parlons de jardin d'Éden, automatiquement nous faisons le lien avec le paradis. Et dans notre croyance populaire, paradis signifierait un lieu où il n'y a rien à faire, car il n'y a que l'abondance. On n'a plus besoin de travailler. Ça, c'est notre conception du paradis. Toutefois, c'est là que nous avons fait fausse route. Replongeons-nous dans les textes. Il s'agit d'un jardin, et non d'un endroit sauvage, à perte de vue. Et si ce jardin avait sa splendeur, sa beauté, c'est parce qu'il a été entretenu. Et le livre de la Genèse est bien explicite là-dessus. Genèse chapitre 2, verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder, c'est-à-dire l'entretenir. Donc Dieu a fait tout le boulot et il a placé Adam et Ève pour entretenir ce parc ou ce jardin. Donc Adam, ou le premier Adam, comme le dit l'apôtre Paul, il avait comme responsabilité de garder, de cultiver ce jardin afin de préserver l'abondance que Dieu avait déjà fournie. La beauté et l'abondance fournies par ce jardin dépend alors du travail que Adam devait fournir. De plus, dans la traduction septante grecque, le mot jardin, et là je vais vous surprendre, le mot jardin est traduit par paradeisos en grec. Et en ancien araméen, paradeisos, on a le paradeisa. Et là les Belges qui me suivent dans cette méditation connaissent bien tous le parc de paradeisa. C'est la caractéristique d'un parc. Et vous savez très bien comment cela est traité, entretenu. Il y a tout un travail, des normes drastiques à suivre pour que la beauté et le charme du parc puissent attirer des visiteurs, assurer une bonne rentabilité et une vie en abondance, bien sûr, que ce soit pour les animaux et pour les employés. Donc vous voyez, la notion du paradis n'a rien à voir avec l'oisiveté, qu'il n'y a rien à faire. Non, ça nous oblige à travailler pour que cette abondance soit pérenne. Là où je veux en venir, Le terme enclos, puisque ça revient à chaque fois dans l'évangile de Jean, le terme enclos utilisé dans les récits de la création a été repris par Jean dans son évangile pour mettre en valeur le second Adam. Le second Adam qui est Jésus, contrairement au premier Adam dans la Genèse, lui, le second Adam, il n'a pas failli pour assurer la vie en abondance. Ce qui implique qu'en dehors de cet enclos, ou plus exactement, si nous sommes séparés de ce second Adam, nous ne pourrions rien faire. Mais tant que nous sommes unis à lui, nous pouvons faire face à tout, dit l'apôtre Paul, grâce à Christ qui nous donne la force. Seul celui et celle qui demeure en lui porte les fruits. Et hors de lui, nous ne pourrons rien faire. Et parallèlement au jardin d'Éden, qui était censé être un lieu paradisiaque, rappelez-vous, il y avait déjà la présence du serpent, dès le début. Il y a un intrus qui fait irruption dans le récit. On ne sait pas d'où il vient, comment il est entré, mais il est là. Un intrus qui fait irruption dans ce beau décor. Et cet intrus, cet ennemi, il a su soudoyer l'homme, a laissé tomber cette vie en abondance que Dieu les a donnée. Et ils ont préféré de s'affranchir de la protection divine, de sortir de cet enclos, en pensant que par lui seul, par eux seuls, ils pourront être capables d'assurer une vie sans Dieu. C'est là la faute et la tentation que le diable a donnée à nos ancêtres. Cette idée d'enclos est une métaphore alors très importante pour signifier que si nous sommes en Christ, en ici, ça parle de local, d'endroit, alors nous aurons une garantie. Il assure la conservation de notre foi, de ceux qui croient en lui. Et toujours, Jean au chapitre 17 de son évangile, il nous montre à travers la prière sacerdotale de Jésus cet engagement que le Christ a pris envers les siens, en tant que bon berger. Et je vous invite à consulter cette prière sacerdotale pour que nous soyons conscients de l'ampleur. Quel est cet engagement que le Christ a pris vis-à-vis des siens? Et ouvrez vos Bibles dans Jean chapitre 17. Je vais le lire, puisque c'est très important. Versets 9 à 19. Jean chapitre 17, versets 9 à 19. Au nom de Jésus. « Je te prie pour eux, » Jésus qui s'adresse à son Père, « je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi et tout ce que tu as est à moi et ma gloire apparaît en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi, je vais à toi, Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, le nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les gardais par le pouvoir de ton nom. Le nom que tu m'as donné, je les ai protégés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui devrait se perdre, pour que l'Écriture s'accomplisse. Mais maintenant je vais à toi, et je parle ainsi pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi, par le moyen de la vérité, ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde, comme tu m'as envoyé dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient vraiment à toi. Je ne vais pas prêcher sur ce texte, mais pour juste vous donner une idée, jusqu'où le Seigneur s'est-il engagé pour ses disciples? Et voici cet engagement en question. Garder, préserver, garder du mauvais. Je reprends. Garder, Seigneur, garde-les. C'est ce qu'il a dit à son Père. Seigneur, préserve-les. Seigneur, garde-les du mauvais. Donc en regardant ces trois verbes, finalement, ils parlent tous d'une même chose, garder du mauvais. Et par quel moyen cela ferait-il? Consacre-les par ta parole. Donc, soyons-en sûrs, si nous sommes toujours debout dans la foi, c'est parce qu'il y a quelqu'un là-haut qui prie pour nous tous les jours à la droite du Père. Et ça, c'est magnifique. Il est toujours là en tant qu'intercesseur pour que notre foi soit préservée. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais si tu es toujours encore debout dans la foi, c'est parce que tu as un bon berger qui garde ta foi toujours stable. Et dans notre texte de ce matin, il est question du berger, de moutons, de voix, de nourriture, c'est-à-dire que tant que notre approvisionnement en nourriture spirituelle est assuré, nous pourrions faire face à toutes choses, à toutes sortes d'assauts qui viennent de l'extérieur. L'ennemi ne baisse pas les bras. L'ennemi, il est toujours là. Mais si nous sommes avec lui, nous serons toujours des vainqueurs. Mais Jean, lui, exhorte ses lecteurs, ainsi que sa communauté, de prendre conscience que nous sommes perpétuellement sous tension ou sous pression de l'ennemi de notre foi. Nous avons un ennemi. Rappelons-nous de cela. Pour son époque, l'Église de Jean était en concurrence permanente contre le courant du gnosticisme à l'intérieur de l'Église, mais pas à l'extérieur. Un courant qui s'est accroché dans l'Église. Et ils ont eu du mal à s'en débarrasser. Ils avaient beaucoup de mal à lutter contre eux. Et il ne faut pas croire que même si les disciples étaient encore en vie, les choses allaient de soi. Non. Il a fallu les combattre de l'intérieur par toute leur force. Et ce fut un combat acharné. Nous aussi, nous avons nos propres combats spirituels qui assaillent la foi de nos contemporains aujourd'hui. C'est pourquoi nous devrions être très vigilants, chers amis, car l'adversaire n'a pas encore donné son dernier mot. L'adversaire, il cherche toujours à nous déstabiliser. Mais, ce qui est sûr, si les enfants de Dieu ne sont pas avares à connaître en profondeur la parole de Dieu, ils seront épargnés par cette menace. Mais si nous disons que je peux faire face toute seule contre les adversaires sans se ravitailler dans l'apprentissage de la parole, alors nous serons des proies faciles. Donc, il n'existe pas de recette miracle ou de menu magique pour une foi constante. Il n'y a qu'un seul moyen. Entrez, dit Jésus, et sortez de mon enclos où il y a de la nourriture saine en abondance. Si nous avons cette habitude-là de nous nourrir de vraie nourriture en lui, nous serons assurés de vaincre. Alors à vous de prendre vos dispositions. Êtes-vous avare à apprendre la parole de Dieu? Rectifiez le tir si jamais c'est le cas. Mais le Christ a dit, j'ai la vie en abondance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.